Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission sur l'actualité du polar. Voilà, ce soir nous avons le plaisir d'accueillir Marc Villard. Marc Villard, bonsoir.
Bonsoir Corinne.
Et merci de nous rejoindre. Donc nous avions beaucoup envie de parler avec vous de deux actualités, c'est-à-dire deux recueils de nouvelles qui viennent de paraître chez Rivage Noir.
Oui.
La première s'appelle L'entrée du diable à Barbesville, pardon, le premier livre, L'entrée du diable à Barbesville. Et un autre dont vous partagez, si j'ose dire, la responsabilité avec Jean-Bernard Pouy, et qui s'appelle Tohu Bohu. C'est non pas une suite, mais un petit peu un travail que vous aviez déjà fait un petit peu il y a quelque temps avec un autre recueil de nouvelles, Ping Pong. Donc, quelques petits mots sur votre carrière. Si je dis que vous avez tâté à peu près tous les styles d'écriture et tous les formats d'écriture, je me trompe beaucoup?
Non, j'ai jamais fait de science-fiction, par exemple. Et j'ai fait pratiquement pas de littérature générale, de romans de littérature générale, mais effectivement, j'ai écrit de la poésie, j'ai fait de la bande dessinée, j'ai fait du roman,
des scénarios de films,
et beaucoup de nouvelles, bien sûr. Ouais.
Et puis aussi, beaucoup de critiques dans le monde de la musique, parce que en commençant par la poésie, me semble-t-il, vous avez en même temps commencé une carrière de batteur. Alors, une petite curiosité, est-ce que vous avez composé de la musique?
Non, du tout.
Du tout, du tout.
J'ai écrit récemment, là, trois ou quatre chansons, mais pas au plan musical, j'ai écrit les textes pour des groupes à vrai qui ont enregistré ça dans le cadre d'un festival, mais moi-même, je n'ai jamais composé.
Alors, il me semble assez récemment, mais j'avoue que je ne suis pas remontée. Il me semble qu'en ce moment, vous aimez beaucoup travailler aussi avec des illustrateurs, ou bien d'ailleurs des photographes comme Romain Slocombe. Les illustrateurs, c'est Loustal, Chosy, Pinelli, c'est différent, ça vous procure pourquoi cette envie de travailler à plusieurs, comme d'ailleurs ce recueil avec Jean-Bernard Pouy?
En fait, j'ai une formation de graphiste quand j'étais en fin d'adolescence. J'ai fait l'école Estienne à Paris, donc j'ai été formé en tant que graphiste aussi bien dans le domaine de la typo que de l'illustration, que de la peinture. Et j'ai toujours gardé un vrai goût pour l'image, ce qui fait qu'au fil du temps, je me suis intéressé à ceux qui faisaient de l'image. Et puis quand j'ai eu moi-même la possibilité de faire des livres avec des producteurs d'images, soit des illustrateurs, soit des bandes dessineurs, soit des photographes, je l'ai fait. Donc au fil du temps, comme ça, j'essaie de lier ce que je sais faire, donc l'écriture, avec ma formation de base qui est donc liée effectivement à l'image. Mais moi-même, je suis un très très mauvais illustrateur, je le suis plus du tout. Et puis je prends que des photos de vacances, donc je peux pas faire un livre global tout seul.
On sait jamais.
Voilà.
Alors, au niveau de l'écriture, on dit souvent, moi ça me semble un petit peu réducteur, mais on dit souvent que vous êtes un des grands spécialistes de la nouvelle en France, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça est paru un roman et d'autres récits. Mais est-ce que ça vous convient quand on vous dit spécialiste de la nouvelle ou...
Oui, ça me convient parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai tendance à écrire des textes courts. Donc je suis toujours dans des formats de l'ordre soit de la nouvelle, donc des textes inférieurs à 30 feuillets, soit des novellas, comme disent les Américains, donc de petits romans qui tournent autour de 90 pages, 100 pages. Et c'est sûr que j'ai des difficultés à dépasser maintenant cette barrière des 100 pages. Je crois que ça correspond aussi à une écriture que j'ai, qui me vient de la poésie, qui est une écriture très très serrée, très ramassée, et qui me conserve en quelque sorte que l'épine dorsale des textes. Il y a beaucoup de vitesse là-dedans aussi. J'ai été influencé par Manchette et l'écriture comportementaliste. Donc, ça plaide tout cela plutôt vers la brièveté. Mais ça me dérange pas. oui, effectivement, c'est réducteur, mais enfin bon, c'est pas très grave.
Enfin, d'un autre côté, sans vouloir jeter trop de fleurs, vu la qualité des deux recueils dont on va parler maintenant, ça n'est plus si réducteur que ça, parce que c'est vraiment régalant que de lire l'un ou l'autre. Alors, on va commencer par Tohu-Bohu, qui est donc le titre de celui que vous avez commis, si je puis dire, avec Jean-Bernard Puy. Je vais vous laisser raconter un petit peu l'histoire de ces histoires, s'il vous plaît.
Oui, tout à fait. Jean-Bernard, comme moi, on a été frappé durant toutes ces dernières années de la façon dont les chanteurs et les musiciens de rap prenaient en quelque sorte en otage des morceaux de soul music, notamment, ou du rock même, mais surtout de la soul, et retravailler dessus en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fait, bon, beaucoup de rap ont des moments dans la chanson qui sont carrément inspirés effectivement de grands morceaux de soul music. Bon, on appelait ça du sample. Donc
oui, c'était un mot que je voulais vous faire commenter justement dans l'avertissement. Vous samplez les nouvelles de l'autre.
Voilà, c'est une réappropriation en quelque sorte d'une œuvre déjà aboutie par quelqu'un qui intervient derrière. Alors dans le cas du rap, bon, c'est des gens qui interviennent de nombreuses années après. Là, en ce qui concerne Puy et moi, on se prête exactement à la même technique, si je puis dire. Chacun de notre côté, nous avons écrit 6 textes, 6 nouvelles, et ensuite l'autre a réécrit à sa façon, et en y mettant son écriture, ses obsessions, ses thèmes, etc., a réécrit les textes de l'autre, ce qui fait qu'on a on arrive comme ça à 24 textes, évidemment. Et ça rappelle dans la pratique, hein, ce que je disais là à propos de la musique. C'est un peu ça qui nous a guidés.
Alors beaucoup d'ailleurs d'écritures qui rappellent des styles musicaux, des histoires régalantes. Vous appropriez, alors non seulement vous vous appropriez les textes, mais vous vous amusez aussi avec le style de l'autre, hein, oui. Et vous amusez des codes qu'emploie l'autre, hein, aussi bien l'un que l'autre. Vous êtes, si je peux me permettre, non pas deux vieux, mais deux jeunes briscards du style et de l'écriture. Donc on sent que vous vous régalez à réécrire, à sampler l'histoire de l'autre, et puis à vous... Est-ce que vous êtes étonné l'un l'autre? On a l'impression, on a cette impression-là.
Ce qui se passe, c'est que on se tente parfois des pièges, si vous voulez. Il y a par exemple Jean-Bernard qui m'a tendu des pièges en me proposant des nouvelles, qu'on dira nouvelles animalières. Ce sont donc des animaux qui racontent l'histoire. Alors il y a un renard, si je me souviens bien, ou une corneille, je me souviens plus, bref, une vache.
Première commence par les flancs d'une vache qui tremble.
Voilà, tout à fait. C'est une grande spécialité de Puy, hein.
Il adore les vaches.
Il adore les vaches, absolument. Et donc, c'est ce genre de blague-là. Bon, moi, j'ai fait une nouvelle à la manière de Charles Bukowski. J'en ai fait une autre à la manière de Manchette. Et bon, c'est vrai que c'est difficile de... quand on se tend des peaux de banane comme ça sous les pieds, de s'accrocher à des textes comme ça. Mais bon, on fait ça aussi pour se faire plaisir, hein, pour se faire plaisir, puis aussi pour se donner justement des contraintes qui nous obligent à aller dans des endroits au plan littéraire où on n'irait pas habituellement, hein. On peut très bien vivre sur un petit savoir, quoi, et puis durer comme ça jusqu'à perpète. Et là, c'est en l'occurrence une petite épreuve qu'on se passe.
Oui, une sorte de... En fait, c'est un peu comme si vous lanciez des défis. Alors oui. Justement, ces nouvelles animalières, ce qui est totalement régalant pour le lecteur, parce que d'abord, on sent que c'est agréable pour un lecteur de sentir que vous vous êtes amusé et que vous êtes un petit peu... le précédent s'appelait ping-pong et ça correspond aussi un petit peu. Mais donc, dans ces deux premières nouvelles, donc Jean-Bernard Puy imagine une vache très tranquille qui regarde passer lentement un train de marchandises. Et vous, on sent que vous vous appropriez totalement quand même, malgré tout, l'histoire, parce que... On reprend un style effréné avec un cheval, ça va très vite, qui voit passer un TGV. Donc vous appropriez non seulement, vous transformez les animaux, mais tout d'un coup on passe d'un style très plan-plan à quelque chose d'effréné qui correspond beaucoup plus d'ailleurs à votre écriture.
Oui. Et puis en plus, bon, le sujet de Jean-Bernard en fait n'était pas complètement anodin, parce que ça faisait référence cette vache qui raconte ce qu'elle voit derrière sa barrière, ça faisait référence à des trains, ça s'est passé notamment en Allemagne, où des trains avec des déchets atomiques passaient dans le pays et étaient en quelque sorte pourchassés par les écologistes qui sont assez virulents en Allemagne. Donc la nouvelle se termine un peu comme ça, et moi j'ai pas voulu rester dans quelque chose d'assez quand même malgré tout d'assez sérieux, hein. Et du coup, tout le monde est un peu obsédé sexuel, quoi, dans ma nouvelle, et notamment
un petit peu, oui, effectivement, oui, oui.
La bonne femme qui est au centre.
Oui, oui, Martine, voilà, le personnage de Martine est absolument fantastique quand on passe de l'une à l'autre nouvelle, parce que on passe d'une dame, pour tout dire, un peu âgée et qu'on imagine avec un fichu acheté sur le marché de Nevers, et votre Martine à vous est plus dans le style pin-up, on va dire.
Oui, tout à fait, c'est une pin-up devant lui.
Voilà, une pin-up de banlieue. Alors, deuxième recueil de nouvelles, Entrée du diable à Barbezville. Alors là, on va plonger, me semble-t-il, dans votre univers. Donc, c'est un recueil de nouvelles qui sont parues par-ci et par-là ces dernières années, et avec une inédite qui donne d'ailleurs son... C'est la dernière nouvelle du recueil, et ça donne le titre à ce livre, Entrée du diable à Barbezville. Alors, c'est très dur, évidemment, on ne peut pas résumer des nouvelles. Je vais me permettre de citer Alfred Ebel, qui a un jour parlé de votre univers, et je trouve qu'il l'a très, très bien décrit. Donc, je cite... Loser, profiteur, déclassé, ghettoisé, frimeur, gamin des rues, grande gueule, naufragé, désespéré, héros parvenu au bout du voyage, forme la famille villardienne en une ronde endiablée. Est-ce que ça correspond un peu à ce qu'on va trouver dans ce recueil de nouvelles ?
Oui, oui, c'est assez juste, hein. C'est, j'ai des personnages, des héros, entre guillemets, qui sont effectivement... complètement dans l'exclusion, dans la marginalité, qui sont parfois des sans-abri, parfois des sans-papiers. J'ai beaucoup travaillé, en fait. Moi, je n'ai pas un passé, si vous voulez, comme beaucoup de mes camarades du Polar en France. Je n'ai pas de passé politique. Vous voyez, il y a beaucoup d'anciens trotskistes, d'anciens Mao, ex-anarchistes, etc., ou toujours anarchistes, comme Puy, par exemple, dont on parlait. Et moi, en fait, j'ai pas eu de période très forte comme ça dans ma vie, de période politique. Mais par contre, j'ai ressenti le besoin, quand je me suis mis à écrire de la fiction, à partir de 1980, de parler justement de ce qui me touchait dans la vie quotidienne, et donc plus au plan social que politique. Et ce sont donc tous ces personnages qui interviennent dans mes textes. Qui en quelque sorte sont ma politique à moi, si on peut dire.
Et donc justement, vous parlez des choses qui vous touchent. Barbezville, Barbès, les lieux sont importants pour vous. Vous tournez souvent autour de ce quartier, de ces rues.
Oui, c'est pas mal, si vous voulez, pour quelqu'un comme moi qui travaille pas mal sur lui, enfin qui travaille beaucoup même sur l'univers et les personnages, de pouvoir s'accrocher à des lieux, hein. Donc j'ai beaucoup écrit effectivement sur Barbès, parce que c'est fort, puis je connais bien Barbès. Je travaille un petit peu aussi sur le coin où j'habite. Là, j'habite plus dans le centre de Paris. Il y a le Forum des Halles, il y a des souterrains dans le Forum. Enfin, il y a des coins qui sont un peu des zones complètement délaissées. Tout ça est assez intéressant, et on a qu'à se baisser pour ramasser des fictions, c'est pas très compliqué. Et... j'ai besoin de ça, hein. Bon, d'autres écrivains n'auront pas besoin d'avoir un background fort comme ça. Leur histoire sera extrêmement sophistiquée, avec des rebondissements, qu'à la limite, ça peut se passer n'importe où, quoi. Mais c'est pas tout à fait mon cas.
Non, on sent que les lieux sont très très importants pour les personnages, parce que aussi souvent, malheureusement, ils ne les choisissent pas et ils finissent dans ces lieux-là.
Bah oui.
Donc forcément, il y a une empreinte très très forte. Au fil de ces histoires aussi, comme au fil de l'ensemble de votre œuvre, il y a un mot qui revient quand même dans la tête du lecteur, qui est en fait le mal incarné. On dirait un petit peu que... il peut être identifié, excusez-moi, soit dans un personnage, soit dans une situation dramatique. On dirait que c'est un petit peu votre fil conducteur au fur et à mesure de votre écriture. Vous cernez le mal et vous essayez de le décrire de toute manière qu'il existe.
Oui, Bah, je pense que c'est toujours, enfin, ça devrait être le principe de base du roman noir.
Du roman noir.
Tel qu'il a été créé dans les années 20 par nos gloires américaines, qui étaient donc Chandler, McCoy, Hammett, tous ces gens-là. C'était justement, ces livres ont existé pour montrer et démontrer et démonter le mal qui était à l'intérieur de la société américaine, notamment, ou dans l'homme. Et je pense que c'est toujours un peu le but de cette littérature, qui est quand même une littérature de genre, faut le dire, hein, même si maintenant on a tendance à dire que bon, tout se mélange un peu, bon, le polar c'est quand même une littérature de genre. C'est d'être là justement pour intervenir toujours au plan social, voire politique, et dire justement ce qui ne va pas. Parce qu'en fait, si on écrit des livres pour dire que tout va bien, on n'a pas besoin d'écrire des livres. Et, hein, il suffit de vivre ce merveilleux bonheur au quotidien. Donc je pense que cette littérature, qui est une littérature d'intervention, c'est bien qu'elle soit toujours là pour dire ce qui ne va pas, et donc ce qui est mal, et donc le mal.
Alors dans votre univers, on retrouve beaucoup la musique aussi, le jazz. Il y a une nouvelle qui... Enfin, il y a d'ailleurs... On évoque souvent aussi la musique dans Tohu-Bohu avec Jean-Bernard Puy, qui est aussi un grand amateur de musique. Et on ne peut pas parler de vos nouvelles sans parler du style et de la qualité d'écriture qui nous épate à chaque fois, franchement. Et dans ce style, j'ai envie de parler un petit peu, vous inspire, à un moment donné, dans une de vos interviews, j'ai lu que vous êtes un petit peu inspiré de la Beat Generation.
Oui.
Excusez-moi de mon accent. Et j'en ai trouvé une définition qui me semble bien correspondre à votre écriture. C'est ce tempo si particulier qui donne une pulsion à la vie ou parfois à la mort. Et je trouve que ça correspond bien à ce que vous semblez avoir envie d'instiller comme style à ces nouvelles.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, donc à la fin des années 60, ce sont les poètes beatniks américains, hein, des gens comme Kaufman, Ginsberg, Kerouac, qui était plus un prosateur qu'un poète, qui m'ont en quelque sorte poussé à écrire, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment formidable. Ça m'était un peu secret, mais pas complètement secret. On était quand même dans l'histoire, hein, et donc j'ai commencé à écrire comme ça. Après, si vous voulez, bon, on se libère de toutes ces influences, évidemment, hein. Mais c'est vrai que j'ai gardé, ça me vient de la période où j'écrivais de la poésie, c'est sûr, j'ai gardé un style, une écriture très très rapide, avec un rythme soutenu, des phrases pas très longues. J'écris beaucoup, si vous voulez, à l'oreille, hein, la phonétique de...
Il y a une vraie musique.
Oui, ça compte beaucoup pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, si j'entends quelque chose qui ne fonctionne pas, bon, je, à la limite, je préfère presque changer un peu le sens et faire en sorte que ça sonne bien.
Voilà. Il y a en particulier dans la dernière nouvelle, donc cette nouvelle, pour parler un petit peu comme beaucoup de journalistes actuels, il y a une sorte de chant polyphonique, puisqu'on suit différents personnages dans cette nouvelle qui est un petit peu plus longue que les autres. Et il y a en particulier une écriture poétique et scandée quand il y a le djib, le personnage du djib qui intervient, qui fait beaucoup, beaucoup penser justement à ces poètes de la Beat Generation. Et pour moi, me fait entre autres beaucoup penser à Richard Brodigan.
Oui, tout à fait. Oui, j'aime bien Brodigan également. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des phrases très courtes comme ça, avec des retours à gauche comme en poésie, hein, ça apporte une accélération dans le texte. On n'est pas là pour s'endormir, hein. Faut y aller, faut avancer. Alors en même temps,
voilà. Et puis c'est vrai que on reste avec ce style-là aussi dans l'essentiel de l'histoire et des personnages.
Oui, c'est comme ça que j'écris. C'est ce que j'aime. Maintenant, faut pas se leurrer, y a des gens qui écrivent d'une façon complètement différente, hein, qui ont une écriture de romancier au long cours, on dira, et qui peuvent être extrêmement envoûtants, hein, bien sûr. Mais moi, effectivement, j'écris comme vous dites.
Mais écoutez, Marc Villard, merci beaucoup. Je vais rappeler dans la deuxième partie ces titres de ces deux recueils de nouvelles. Et puis, on écoutera un petit peu de musique que vous avez vous-même choisi, puisqu'ils sont extraits d'un album, enfin, pardon, d'un recueil que vous avez fait avec Joe Pinelli. Avec beaucoup de morceaux de blues et de jazz, et j'en parlerai dans la deuxième partie d'émission.
Oui, c'est les deux CD qui sont joints à cette petite BD sont vraiment de qualité. Il y a beaucoup de chanteurs de blues qui ont d'ailleurs repris des morceaux qu'on connaissait pas chantés par d'autres, puis que j'ai découvert là. Non, c'est voilà. Bien, c'est
ça s'appelle In a Blue Bar. On en parlera tout à l'heure, et c'est un très très joli objet en plus. C'est un très bel objet aussi bien par les dessins que par le texte. Marc Villard, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Bonne soirée.
18h30 sur Agora FM. Excellent début de soirée. Tout de suite l'information régionale.